sommes tous là. Voilà, je vais entrer dans ce deuxième enseignement sur la joie, cette fois, que procure cette espérance dont nous avons parlé ce matin. Je vais commencer avec la prière que vous avez entendue à l'office. Vous l'avez entendue deux fois, en plus. Donc en voici la troisième fois. La prière du jour. En célébrant avec joie chaque année ce temps de carême, nous te prions, Seigneur, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. C'est un résumé, vous voyez, de ce que je vous dis aujourd'hui. Il suffit de trois phrases. Il y a la liturgie, c'est merveilleux. Souvent dans la liturgie, on pense à écouter les textes de la parole de Dieu, mais il faudrait écouter avec la même oreille les textes des prières, tellement elles ont été forgées au cours des siècles, c'est ça la tradition de l'Église, hein, qui nous a, à travers la, en général, d'ailleurs, l'écriture des saints, en tous les cas, à travers le travail de l'Esprit Saint. Mais c'est souvent, beaucoup viennent de saints qui ont écrit ces prières, saint Augustin en a écrit beaucoup, saint Thomas d'Aquin aussi, mais bien d'autres, saint Anselme, qui nous ont offert ces prières qu'on a gardées précieusement dans nos missels et ben, qui nous font toujours prier, voilà. Qui sont des très 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 beaux textes d'une densité étonnante et ça mérite vraiment, vous savez, par exemple de se préparer un dimanche au moins avec ce qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire la première prière que le prêtre dit. Vous savez pourquoi on appelle ça une collecte? On appelle ça la collecte. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on rassemble, voilà. C'est-à-dire que le prêtre, il est là pour collecter la prière des fidèles. Donc c'est le moment, vous voyez, où après avoir fait un rite pénitentiel, vraiment le prêtre fait entrer dans la prière en collectant la prière de chacun, parce que c'est ensemble que nous célébrons les mystères du Seigneur. Et donc là, particulièrement, vous voyez, c'est magnifique parce que je ne crois pas que ça tombe vraiment sous le sens quand on pense au carême, en célébrant avec joie. L'insistance est grande. Chaque année, ce temps de carême. Est-ce que vous faites vraiment de votre carême un temps de joie? Quand on parle de la phase de carême, en général, ce n'est pas forcément une phase, hein, un visage hilar, vous voyez, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une déformation dans notre façon de vivre le carême par rapport à l'invitation qui nous est faite. Donc en célébrant avec joie ce temps de carême, nous te prions, Seigneur, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques. C'est ça l'espérance dont je vous ai parlé ce matin. Hein? C'est cette anticipation, c'est d'avoir les arts, on pourrait dire, hein, de ce qui est devant nous et qui en même temps est déjà avec nous, c'est déjà la grâce actuelle, parce que le mystère que nous préparons à célébrer, eh bien, nous le vivons déjà, ce mystère. Il nous est déjà donné par la grâce. La première dans notre vie chrétienne, le dogme qui montre cela de manière la plus magnifique, je trouve, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. On dit de Marie qu'elle est donc Immaculée Conception. Et comment se fait-il qu'elle soit Immaculée Conception ? Parce qu'elle a reçu la grâce de la mort et de la résurrection de son fils. Alors que, hein, c'est pas difficile à calculer, elle a été conçue bien avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais, en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, parce que les dons de Dieu sont hors du temps, eh bien, elle a été déjà marquée par le salut, et du coup, elle a été, voilà, épargnée de toute tâche du péché pour être, voilà, cet écrin magnifique pour la naissance du Sauveur. Donc, il en est de même, nous, dans le mystère chrétien, c'est-à-dire que ce à quoi nous aspirons, nous le recevons déjà, et puisque nous recevons déjà, nous permet d'avancer vers ce que nous aspirons. Si on ne recevait pas les grâces du ciel, de la vie éternelle, de la résurrection du Christ à laquelle nous voulons participer, si on ne les recevait pas déjà, on ne pourrait pas y aller. Donc elles nous sont déjà données en chemin, et puis nous assure en même temps, eh bien, que le chemin continuant, nous les recevrons avec plus de plénitude pour parvenir à la plénitude alors que nous n'y sommes pas déjà. Mais nous recevons déjà, eh bien, les bienfaits et donc les arts de cette résurrection. Donc, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, alors que nous ne sommes pas encore ressuscités, encore que par le baptême, nous sommes déjà des ressuscités, hein, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, des trésors de prières que nous pouvons faire nôtres. Et justement, je notais que le pape François, dans son message de carême pour cette année, eh bien, nous adresse aussi, parce que c'est lié forcément, comme je vous ai dit ce matin, qui nous invitait à cette espérance, eh bien, il nous invite à vivre aussi ce carême, bien sûr, dans la joie. Et il reprend l'invitation du Christ lui-même, que nous avons entendu le mercredi des cendres. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, ce qu'on appelle une phase de carême, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Au contraire, que l'on voit la joie sur les visages, dit le pape François, que l'on sente le parfum de la liberté, qu'on libère cet amour qui fait toute chose nouvelle, en commençant par les plus petites et les plus proches. Voilà, cela peut, dit le pape François, se produire dans chaque communauté chrétienne, car il est important, bien sûr, que nous nous soutenons et que nous nous motivions pour vivre ensemble ce temps de joie. Hein. Donc, c'est vraiment, cette joie qui doit déjà être manifeste et qui est, on pourrait dire, l'habit de la conversion. On n'attend pas d'être au bout du chemin pour entrer dans la joie, mais nous y entrons déjà dans ce désir, eh bien, d'être conformés à Jésus victorieux du mal, victorieux par amour. Et donc nous pouvons nous réjouir, même si notre conversion n'est pas encore... enfin moi, en tous les cas, c'est le cas pour moi, peut-être... n'est pas encore aboutie. Alors on pourrait dire, je pourrais me dire, ben, tu es toujours un pauvre pêcheur, mon garçon, ben, c'est pas bien brillant, ça fait 10 fois que tu essayes et ça fait 10 fois que tu retombes... voilà, et c'est en plus toujours, plutôt quand même toujours dans les mêmes domaines, c'est pas que je sois pas très inventif, mais je peux reconnaître que c'est quand même, en général, dans les mêmes domaines que mon péché se renouvelle. Donc c'est pas très glorieux, et je pourrais être fort triste de cela. Mais je crois que le Seigneur ne m'invite pas à être dans cette tristesse, même si le péché est une peine. Je crois que c'est Léon Blum qui disait, si on doit être triste, on doit être triste que d'une chose, c'est d'être encore pécheur. Mais il y a quelque chose de plus, qui doit dépasser cette tristesse, c'est qu'on est appelé à la conversion, et que nous pouvons y croire, cette conversion, parce que la conversion, notre conversion, n'est pas due à nos mérites, à nos propres forces, à nos propres capacités, mais que notre conversion est due à la grâce de Dieu. À cet amour, je le disais déjà ce matin, fidèle du Seigneur, qui jamais ne se déprend, et qui nous permet, justement, je cherche en même temps, de continuer le chemin de conversion. Le pape François écrit « Dieu ne s'est jamais lassé de nous ». C'est une belle expression, vous voyez. Dieu ne s'est jamais lassé de nous. Voilà. Et donc, nous pouvons être sur un chemin de conversion, sur notre chemin de conversion, avec cette joie de vraiment du salut, qui est une joie actuelle, de dire, mais le Seigneur, voilà, à nouveau, il me donne tout, tellement son amour est grand, pour que je puisse, eh bien, être sur ce chemin de renouveau et de lui demander que cette grâce me soit toujours donnée, de pouvoir être, de pouvoir connaître un déplacement dans ma vie, c'est-à-dire ne pas me réveiller demain matin quand je suis endormi ce soir, mais que le Seigneur me donne, eh bien, de changer vraiment mon cœur petit à petit. On dit bien que c'est un chemin, ça veut dire que là aussi on était impatient et on sait combien le Seigneur est patient, lui, avec nous. On voudrait peut-être que notre conversion soit immédiate. Et que, je crois que l'histoire, plus on vieillit, c'est bien, j'en fais l'expérience, plus on s'aperçoit que c'est vraiment un chemin, la conversion, et que c'est pas un moment comme ça où on se dit « Ah, cette fois, je me convertis, Seigneur. » Et de se dire « Voilà, à peine dit, c'est fait. » Non, c'est vraiment un chemin. Hein. Et le chemin s'allonge, oui. Donc, je crois que la joie de la conversion, elle est là, si vous voulez, dans le fait de renouveler notre confiance, notre assurance dans les grâces que Dieu nous donne pour notre renouveau. En cela, on comprend que l'espérance n'est pas un optimisme, vous voyez, mais c'est plutôt, qui est toujours quelque chose de, un peu, d'abord c'est une dimension naturelle, l'optimisme, une disposition naturelle, certains ont un caractère qui en est plus marqué et d'autres un peu moins, et c'est assez subjectif et fugitif, mais l'espérance justement c'est tout autre chose, c'est ce qu'on appelle une vertu théologale, hein, c'est-à-dire que ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu, et ce don de Dieu qui bien sûr est lié à son amour, c'est parce que l'amour, Dieu est amour, qu'il met en nous, eh bien, ce don, cette vertu de l'espérance qui nous fait le rejoindre dans cette joie, une communion à la joie de Dieu. Vous savez, dans l'évangile, aussitôt qu'on a une conversion, on parle de la joie de Dieu. Hein, il y a bien plus de joie au ciel hein, pour un homme qui se convertit que pour 99 justes. Donc c'est vraiment la joie de Dieu avant d'être la nôtre. Et je crois que l'espérance nous fait communier à cette joie de Dieu, de dire « Ah, oh, mon Dieu, hein, il a tellement investi pour notre conversion, il a mis tellement d'amour, hein, il nous a tant aimé, qu'il nous a donné son Fils pour nous sauver, qu'il est bon que nous nous unissions à cette joie de Dieu qui est infinie devant eh bien, nos faibles progrès, le pas que nous faisons en avant, sans compter tous les pas que nous avons encore à faire. Mais déjà, la joie de Dieu est là, donc la nôtre aussi doit être là, sur ce beau chemin de conversion. C'est l'esprit, d'ailleurs, Saint Paul, je ne l'ai pas relevé ce matin, mais je vais revenir un peu plus cet après-midi, c'est l'Esprit Saint qui répand justement cette joie qu'il a diffuse en nous parce qu'il en est la source. C'est lui qui assure l'espérance en notre cœur, l'espérance qui est cause de notre joie, parce que tout simplement l'Esprit Saint ouvre notre cœur à plus grand que lui-même, plus grand que notre cœur, j'entends. Il le dilate, il le désapproprie, il le stabilise dans des dispositions qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de lui, en vue de notre bien. Ainsi, malgré toutes les épreuves, des épreuves de toutes sortes, des épreuves physiques, morales, eh bien, l'espérance vient mettre en nous, faire couler en nous une source d'assurance et de joie. Et c'est dans ce sens-là que cette joie chrétienne, cette joie du carême, qu'il nous faut accueillir pendant le carême, n'est pas une joie, on va dire, immédiate et naturelle, mais vraiment une joie à recevoir. Saint Philippe Néri, qui est le saint patron des clowns, il était quand même sérieux, cet homme-là. Il a fait de grandes choses dans l'Église. Et notamment, il a invité ses frères à une ascèse toute particulière. Il disait que votre ascèse soit celle de la joie. Et donc, pour la, vraiment, dans cette conscience que être sur un chemin de joie, c'est une exigence. Hein. On n'attend pas que les circonstances fassent que, ben voilà, la vie est facile, donc on est joyeux. Mais c'est une joie qui jaillit du plus profond de notre cœur, fruit d'espérance, qui s'appuie, nous l'avons dit, sur l'amour indéfectible du Seigneur. Et cette joie, c'est un effort chrétien. C'est-à-dire que le matin, il faut peut-être se choisir. Je vous propose ça pour déjà cette semaine-là. Tous les matins, choisissez la joie comme votre effort. Plutôt que, vous voyez, peut-être que c'est un meilleur carême, plutôt que de dire, ce matin au petit-déj, je ne mettrai pas beurre et confiture, mais je mettrai que le beurre, ou peut-être que la confiture, et que du coup, ça va me faire un peu... Première attitude, ça va être comme une grimace. Et peut-être si je mange, je prends mon petit-déj avec quelqu'un, de ne pas être très agréable. Et vous venez prendre la cesse de la joie, vous voyez, de dire vraiment, je vais faire la cesse que quoi que la personne me dise, quelle que soit la contrariété qui puisse arriver, dans la première heure de ma journée, même si j'ai fait un mauvais rêve ou je me suis levé du mauvais pied, quoi qu'il arrive, la cesse de la joie. Peut-être que c'est le plus gros effort que nous ayons à faire quelquefois, d'être joyeux. Hein, cette joie propre. D'abord, mais quand on dit ça, c'est pas simplement faire des risettes, hein, mais c'est avoir vraiment le cœur en joie. Hein, c'est forcé d'avoir le cœur en joie, de dire, mais est-ce que j'ai vraiment un motif de ne pas être joyeux, hein? Est-ce que j'ai commencé par me dire, voilà, le Seigneur m'aime, d'entrer... C'est pour ça qu'on invite toujours à ce qu'on entre en journée avec la louange, pour avoir tous les motifs. Hein, dire, le Seigneur m'a encore donné vie ce matin, il m'a relevé de ma couche, enfin de mon lit, je veux dire. Hein, il m'a remis debout, c'est une résurrection. Enfin voilà, c'est il me donne, il m'adresse encore des appels d'être de grandir dans ce que je suis, on le disait ce matin, de me développer, d'être Bernard. Hein, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas une joie de dire que le Seigneur, il compte encore sur moi, et il veut encore aujourd'hui me faire, voilà, me construire, me faire devenir celui qu'il m'appelle à être, et me donnera tout pour cela. Donc, vraiment que notre ascèse soit celle de la joie. Car je pense que, enfin, c'est le pape François qui dit ça, hein, c'est pas moi, que nous souffrons souvent d'avoir perdu la joie de vivre. Il écrit, le pape François, non pas dans son message cette fois, mais dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, il écrivait ceci, « Ceux qui se laissent sauver par Jésus sont libérés du péché, de la tristesse, si je disais la vraie tristesse c'est celle du péché, il n'y en a pas d'autre à vrai dire de vraie tristesse que celle du péché. Il faut vraiment lutter contre toutes les tristesses qui ne sont pas celles du péché. Du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, écrivait-il, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie. Je trouve que c'est très beau parce que c'est dire combien la joie chrétienne, justement, est missionnaire dans un monde qui est triste. Et je crois que c'est quand même une des choses qui caractérise particulièrement notre monde occidental. Il faut avoir la gueule des gens dans la rue. Ah, c'est vrai quand même. Bon, la joie chrétienne est missionnaire parce que c'est quelque chose qui, justement, peut se, comment dire, s'expérimenter dans la relation avec l'autre, dans la manière dont on va dire bonjour, dans la manière dont on va être en capacité de sourire à quelqu'un, de réagir joyeusement à un frère qui, voilà, nous fait telle ou telle proposition. Donc vraiment, cette joie est missionnaire. Et si elle est tant missionnaire, c'est aussi parce qu'elle est spécifique. C'est-à-dire que notre joie, c'est pas simplement, comment dire, le sourire dentifrice, quoi. Hein. Mais c'est, il faut y croire, quoi. La joie dont nous avons à témoigner, c'est une joie qui vient du cœur. Donc si le cœur est vide, c'est sûr que votre sourire, ce sera un joli sourire de pin-up. Hein. Mais si ça vient du cœur, c'est autre chose, c'est un témoignage. On va voir un petit peu aussi comment avoir une telle joie, une vraie joie. Et ça me faisait penser à un témoignage un jour que j'avais invité quand j'étais, je préparais des jeunes à ma paroisse à la confirmation, et j'avais invité un frère de Saint-Jean, on était à Rimont, à venir témoigner, et donc il avait témoigné de sa vocation. C'était un frère polonais. Ah, c'est polonais. Et alors, il nous a raconté sa conversion, parce que, on va dire, il s'est converti quand il était étudiant, ou lycéen, étudiant. Et il nous a raconté qu'il avait une prof, il était insupportable. Vraiment insupportable. Et il avait une prof qui, tous les jours, était constante dans son attitude et toujours joyeuse. Et malgré tout les difficultés de cette bande d'étudiants qui, visiblement, était assez insupportable, eh bien, elle était toujours sereine et joyeuse. Mais à tel point que ce gars-là, il l'a suivi plusieurs fois à la sortie des cours. Tellement il était intrigué quand même par le rayonnement, quoi, et la joie qui l'habitait, et qui était inaltérable, quoi. Et il s'est aperçu qu'elle allait à l'église, et qu'elle passait un bon temps à l'église. Lui, il était complètement incroyant. Donc, voilà, et plusieurs fois, il l'a fait, et ça l'a... c'est tout simple, hein, mais ça l'a tellement touché que ça l'a conduit à la foi. Il a découvert où était le secret de cette femme. Il est devenu croyant, il est devenu, après, il a répondu ensuite à l'appel du Seigneur, il est devenu frère. Mais vous voyez, pour dire combien l'attitude profonde que nous pouvons avoir peut toucher. Et c'est vraiment un cadeau que nous pouvons faire à nos frères, d'être habité par la joie de l'Évangile, comme nous y invite le pape François, parce que le fait de savoir et d'être assuré de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Jésus, eh bien, nous rend invincibles devant toutes les contrariétés que nous pouvons rencontrer, et Dieu sait que nous en rencontrons. Saint Paul, je reviens à notre cher Saint Paul, qui nous parle de cela, justement, en lien, bien sûr, avec l'espérance qui est cause de notre joie, dans Romains 12, chapitre 12, versets 11-12, il nous dit: ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Vous voyez comme quoi c'est très très lié. Hein. La joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Là tout est lié, vous voyez, on voit, parce que c'est un ensemble qui finalement est, voilà, la règle, on pourrait dire, du carême. Hein. C'est d'avoir cette joie de l'espérance qui nous permet, d'une part, la persévérance dans l'épreuve, puisqu'elles sont bien présentes, et d'être assidu à la prière, hein, pour justement cultiver, j'allais dire, cette joie de l'espérance. Partagez avec les frères qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, un beau programme de vie, vous voyez, mais qui est vraiment ancré dans la joie de l'espérance et dans laquelle on tient par la prière, voilà, qui nous ancre vraiment dans cette espérance, dans cette assurance que que Dieu nous aime et que par son amour, il produit en nous les fruits de la vie chrétienne. Et puis, un peu ailleurs, il nous dit encore, c'est dans, toujours dans l'Épître aux Romains, mais c'est chapitre 15, verset 13, cette très belle salutation, que le Dieu de l'espérance, car bien souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, saint Paul appelle notre Seigneur le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, voilà, dans cette expression, saint Paul nous montre que cette espérance, dont il nous invite à déborder, eh bien, est produite en nos cœurs par la puissance de l'Esprit Saint. C'est le travail de l'Esprit Saint en nous, qui vient nous porter à l'espérance. Souvent, vous savez, nous avons... Saint Paul, il est très conscient de notre condition, de notre faiblesse. Il y revient très souvent. Mais non pas, pour nous affliger, mais au contraire, pour nous relever, pour nous mettre en chemin. Il dit, par exemple, on ne sait pas prier comme il faut. Alors, il y a beaucoup qui disent, on ne sait pas prier comme il faut, alors du coup, je prie plat, puis point à la ligne. Saint Paul, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, on ne sait pas prier comme il faut. Ça, c'est vrai. Le constat, on peut tous le faire. Mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et c'est lui qui, voilà, vient exprimer en notre cœur, Abba, c'est lui qui vient assurer à notre esprit d'homme, de femme, que nous sommes fils de Dieu et que donc on a cette capacité, cette possibilité qui nous est donnée, incroyable, de pouvoir dire à Dieu, Père. Et ce qu'il dit de la prière, on peut le dire de toutes les réalités proprement chrétiennes de notre vie, c'est l'Esprit Saint qui vient assurer à notre esprit, qui est marqué par la faiblesse, qui le sait, eh bien que nous avons des capacités qui nous sont données d'avoir la stature d'homme chrétien, et donc de prier, et donc de dire à Dieu « Papa », et donc d'être au milieu des épreuves dans une espérance débordante, alors que nous aurions bien des raisons de désespérer, comme la plupart de nos contemporains. Et d'ailleurs, tout ça, l'Esprit Saint vient produire tout ça en nous. Et il vient assurer notre esprit, notre conscience, notre intelligence, qui est bien humaine, que nous avons des possibilités, des capacités qui nous sont données, et qu'on n'est pas appelé à vivre, nous chrétiens, avec des capacités d'homme ou de femme, mais des capacités d'enfant de Dieu, de fils, de fille de Dieu, et que ce n'est pas la même chose que de vivre avec ces capacités-là, et qu'il nous faut vraiment prier l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous donner cette assurance qui bien souvent nous manque. Et quand nous retrouvons cette assurance, parce que c'est celle de l'Esprit Saint, ce n'est pas la nôtre, eh bien, il vient assurer à notre esprit que nous sommes ce que nous sommes par le baptême, eh bien, nous retrouvons la stature de ce frère du Christ et nous pouvons, eh bien, accomplir les œuvres de l'Esprit Saint. Dans ce sens, le temps du carême, c'est, vous voyez, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un temps qu'il nous faut vraiment ouvrir à l'Esprit Saint. Parce que c'est un temps où il est à l'œuvre. On dit souvent que c'est un temps favorable. Qu'est-ce qu'on entend par un temps favorable? C'est vraiment un temps où nous mettons dans les dispositions, celle de la prière, celle de la disponibilité, celle de la, on dit la pauvreté du cœur, vous voyez, de nous désencombrer de tout ce qui, vient tellement nous remplir, mais de d'autres dispositions que celles de l'accueil de l'Esprit Saint, eh bien, c'est de nous désencombrer tout ça, c'est le but du jeûne, c'est le but du silence, c'est le but de nous mettre un peu à l'écart, pour que, enfin, l'Esprit Saint puisse accomplir davantage en nous son œuvre. Donc c'est vraiment un temps qu'il nous faut laisser être habité par l'Esprit Saint. On ne peut pas oublier cette phrase de l'Évangile, juste après le baptême, par Jean-Baptiste, Jésus donc quitte le Jourdain, et l'Évangile nous dit, poussé par l'Esprit Saint, il alla au désert. Nous, c'est aussi poussé par l'Esprit Saint qu'il nous faut aller au désert du carême, hein, en imitation du Christ. C'est vraiment poussé par lui. Si on n'est pas poussé par lui, je veux dire, on va au casse-gueule. Hein. Les tentations du démon, nous, on va les prendre. Puis alors bien, et on va y répondre au quart de tour. Ah, tu nous invites à l'orgueil et dire, moi, je suis plus fort que l'autre, t'as vu un petit peu, moi, le jeune, qu'est-ce que je suis bon? Ah, ça, on va y avoir droit. Hein. Mais si on y va poussé par l'Esprit Saint, c'est lui qui œuvrera. Il guidera. Et comme le dit d'ailleurs un peu plus loin Saint Paul dans ce passage-là, eh bien, j'ai perdu la ligne, mais il nous permettra d'être victorieux dans le bien. Hein? Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, cette œuvre qu'il nous faut accueillir. D'autant plus que l'Esprit Saint est comme un gage, si vous voulez, pour nous, de la puissance de la résurrection. Saint Paul dit que c'est un acompte, c'est curieux comme nom, ça fait un peu commercial, non ? Il dit que c'est un acompte sur la plénitude de la grâce. Il écrit ça aux Corinthiens, d'ailleurs à plusieurs reprises, notamment dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22, où il dit « Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau. » On le sait bien, hein, au baptême, on a reçu ce sceau. « Et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. » Une première avance sur ses dons. Et pour dire que l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu. Donc on va dire, il ne faut pas le lire en disant, oui, alors, il y aura un don plus grand que l'Esprit Saint. Non, c'est le don plus grand. Mais quand il nous est donné, il vient accomplir en nous déjà une première avance par rapport à l'œuvre que Dieu va accomplir en nous, c'est-à-dire l'œuvre de la résurrection. Et comme nous ne sommes pas encore ressuscités dans la plénitude, mais déjà, cette œuvre-là, elle est en cours. Et elle se réalise par l'Esprit-Saint. Donc c'est vraiment comme un acompte, on pourrait dire. Hein, c'est déjà une première avance sur ce qu'il veut accomplir en nous. Et donc c'est pourquoi il est si important que nous accueillions l'Esprit-Saint pour qu'il réalise en nous eh bien, le commencement de cette œuvre de Dieu. Et si nous en sommes conscients, et si nous le demandons et en sommes conscients, je crois que c'est justement une belle victoire sur toute tentation de découragement, de démission, parce que c'est ce qui nous guette souvent sur le chemin de la conversion, et qui fait qu'on s'arrête avant d'avoir été très loin, et de se dire « non, je garde confiance, l'Esprit Saint est au travail, et il accomplit déjà des choses, il y a encore du travail à faire, on n'en est pas encore à la résurrection, mais ça avance. » Et c'est ce qui peut, de ce fait, nous procurer une joie profonde. Saint Paul y insiste, vous voyez, aux Philippiens, il écrit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. » C'est un impératif, on n'a pas le choix. Vous savez que ça a déjà été dit par l'ange Gabriel à la Vierge Marie, « Kaïré, réjouis-toi. Hein, » le « Je vous salue Marie », c'est vrai. « Réjouis-toi. » C'est d'ailleurs en grec, il y a deux mots, vous voyez, deux verbes. Il y a le verbe kairé, donc là c'est kairété, hein, réjouissez-vous. C'est un impératif, pour dire vraiment, c'est un impératif chrétien qui est différent d'un autre mot réjouir, euphraïno, qui est plutôt une joie superficielle. Donc vous voyez, on distingue bien dans la langue de l'évangile, enfin la langue des lettres de Saint Paul. On distingue bien entre la joie profonde et la joie superficielle. Là, c'est vraiment, voilà, la joie du cœur. Le fait d'avoir un motif de joie qui est déjà une annonce de la joie éternelle, parce que nous sommes dans la perspective de la joie éternelle. Nous trouvons encore cet appel à la joie, toujours chez saint Paul, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, où il dit « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, vous recherchez toujours ce qui est bien entre vous et avec tous, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. » Donc vous voyez, là, assorti à ce commandement donc, d'être joyeux, soyez toujours joyeux, eh bien, il est assorti de cette invitation à la prière, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Donc il ne s'agit pas simplement, vous voyez, d'un temps de prière, mais c'est vraiment d'être dans une attitude de prière, hein, c'est-à-dire de communion avec Dieu et de disponibilité à l'Esprit-Saint. Hein, cette assiduité de la prière, vous voyez, c'est une raison de notre joie. La prière vraiment nous ancre dans la joie parce qu'elle nous ouvre au beau mystère d'amour de Jésus et ne peut que édifier notre cœur. C'est aussi la prière qui nous aide à dépasser un peu le ressenti, souvent quand forcément on est au cours d'une journée confronté à une angoisse, à une peine, à une impression, à un sentiment, à un souci, à une épreuve, à une difficulté, enfin voilà. C'est bien combien nous sommes très sensibles à cela, parce que c'est notre personnalité. Hein. C'est ce qui constitue notre personnalité d'homme, de femme. Et la prière nous aide à dépasser ce ressenti pour nous enraciner dans la réalité de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est une chance d'ailleurs, parce que des fois on se plaint que dans la prière, on ne ressente pas grand-chose. Ça peut arriver, ça arrive même assez souvent. Hein? On va dire, ah ben oui, mais là je ne ressens pas, ou voilà, j'ai l'impression que... je ne suis pas écouté, j'ai l'impression que... Enfin voilà, on est toujours très sensible, c'est le cas de le dire, hein, à nos ressentis, à nos impressions et tout cela. Mais c'est justement pour en sortir que la prière nous met devant, comment dire, dans la réalité de la présence de Dieu, qui n'est pas dépendant de notre ressenti, hein, mais qui est là. Voilà. Et si ça pouvait... nous apprendre aussi à être avec nos frères un peu moins dans le ressenti et un peu plus dans l'évidence de leur présence. Que ce ne soit pas toujours le ressenti qui nous guide dans la relation, mais plutôt le fait de cette affirmation de leur présence. Qui, je le reconnais, demande, comment dire, à dépasser cela. Hein, mais à faire que nous soyons davantage dans cette évidence, enfin évidence, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais devant cette réalité de la présence. Et la prière est une invitation à nous enraciner justement dans la victoire du Christ, même si dans notre vie, cette victoire n'est pas toujours forcément très apparente. Vous voyez, dans l'Épître aux Thessaloniciens, là, ce que je vous lisais, il continue saint Paul en disant, alors que je change mes lunettes, ou alors c'est la Bible qui écrit trop petite, je ne sais pas, mais... soyez toujours dans la joie, voilà, un peu plus loin, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Mais c'est magnifique. On en revient, vous voyez, toujours à la fidélité du Seigneur. Et c'est à cette fidélité qu'il faut toujours revenir. Hein? Il est fidèle celui qui vous appelle à être ce que vous devez être. Hein? C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait, sois ce que tu dois, ce que tu dois être, et tu enflammeras le monde. Hein, c'est à peu près ça. Et tu mettras le feu au monde. Vous voyez, c'est... Et en effet, celui qui nous permet vraiment d'être ce que nous sommes, enfin, j'y reviens hein, de manière répétée, mais c'est vraiment le Seigneur de par sa fidélité. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Tout cela, il le fera. Donc, soyons pleins de confiance. Donc, il nous demande, hein, Saint Paul, voilà, pour être dans cette joie, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Je voudrais insister sur cet accent de grâce qui est la source, vous voyez, de la joie permanente, et qui est vraiment un remède, c'est une prière tellement importante, parce que c'est un remède contre bien des tristesses. C'est un remède contre le découragement. Souvent, on est pris, ça dépend du tempérament, c'est vrai, mais par une dépréciation de soi, par le fait de faire des constats négatifs sur une série d'échecs, et le fait de savoir rendre grâce, ça demande d'abord de regarder, de scruter, vous voyez, on a célébré un scrutin ce matin, mais de scruter le cœur, et on sait que celui qui scrute le cœur, c'est le Seigneur, mais d'apprendre nous aussi à scruter pour voir dans notre cœur eh bien, ce que le Seigneur réalise. Il y a tant de choses qu'il réalise que nous ne savons pas voir, que nous ne voulons peut-être pas voir, et pour lesquelles, de ce fait, nous ne rendons pas grâce. Et l'action de grâce invite à reconnaître ce que le Seigneur réalise en nous, qui sommes pourtant bien humbles, bien petits, et pourtant où il faut de grandes choses. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Enfin, de reprendre le Magnificat de Marie, bien sûr, nous apprend cela. Pour reconnaître avec gratitude le bien que le Seigneur accomplit en nous. Ça nous guérit d'une fausse humilité, vous savez, qui finalement, en général, nous désengage de beaucoup de choses, nous fait refuser nombre de services, parce que, oh ben non, mais moi je peux pas, oh ben non, mais moi, vous savez, je suis trop petit, je suis trop cela, je suis trop cela. Cette fausse humilité, qui d'ailleurs empêche la vraie humilité de grandir en nous, et qui, justement, devrait laisser place à une belle action de grâce de reconnaître d'apprendre à reconnaître ce que nous sommes. J'aime beaucoup cette prière de Sainte Claire qui, avant de mourir, dit « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. » Oh, c'est magnifique. Vous regardez le matin dans la glace et vous commencez comme ça votre journée. Oh, « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. » Tel que je suis là. Oh là là. Ah ben oui. Et vraiment de se recevoir du Seigneur tel que nous sommes. Hein. Pas tel que l'on se rêve, ou pas tel qu'on s'imagine aussi, parce que je pense qu'on a quelques rêves sur soi-même, hein, ou quelques illusions, mais d'essayer de se revoir vraiment, de se recevoir, du Seigneur tel qu'il nous a créés. Tel qu'il nous crée, c'est-à-dire il ne cesse, il continue de nous créer. Vous savez que quand on professe la création, on ne professe pas un Dieu qui a créé, mais un Dieu qui est créateur et qui donc a toujours sa création entre ses mains. Voilà l'action de grâce qui est aussi, bien sûr, un bon remède contre l'orgueil. Saint Paul nous le dira demain, je crois, dans la deuxième lecture. Quand il nous invite c'est bien par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil, c'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Et ça, c'est incroyable, qu'il a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, les œuvres bonnes que nous avons à pratiquer, il les a préparées. On n'a plus qu'à le faire. Et en plus, à le faire avec sa puissance. On a vraiment beaucoup de chance. Hein. Vous savez, on peut rendre grâce. Hein. On peut rendre grâce. C'est aussi l'action de grâce, je crois, un très bon remède, c'est le meilleur médicament que nous ayons, nous pouvons en prendre des doses. C'est contre la jalousie aussi. Le rendre grâce pour le bien que le Seigneur fait à travers les autres. Vous voyez, pas simplement à travers nous, mais aussi à travers les autres. Quand vous commencez à vous émerveiller de ce que fait la voisine, c'est-à-dire que la jalousie va être morte en quelque temps, ça ne va pas tarder. Ah, oh, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais à travers elle. C'est tellement beau ce que tu arrives à faire à travers elle. Des choses que tu ne peux pas faire à travers moi. Ah ouais, c'est bien ça. Enfin voilà, pour dire que l'action de grâce, vous voyez, une fois qu'on a un peu tué tout ça, là, l'orgueil, le découragement, la jalousie, la fausse humilité, je garantis que la joie, elle retrouve sa place profondément dans notre cœur. C'est rien de tel pour être triste que d'être jalouse. Jaloux. Pourquoi je mets ça au féminin ? Jaloux. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est attristant. C'est terrible. Donc, on attaque ça et la joie retrouve sa place. Et une joie, nous dit saint Paul, permanente, si nous tenons fidèlement dans l'action de grâce. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est magnifique ça aussi. Il ne faut pas éteindre la lumière. Voilà, je crois, ce qui peut être pour nous un chemin, vous voyez, dans l'espérance et dans la joie qu'elle produit, pour que nous puissions avoir un bon carême que nous allons beaucoup regretter quand il va s'arrêter. Ce sera peut-être notre grande tristesse, c'est que le carême soit fini. On va dire, oh là là, c'est dommage, j'étais tellement bien. On était tellement agréables les uns avec les autres. On avait tellement appris à vivre en frère et en sœur. Comme il est doux et bon de vivre, d'être frère et de vivre ensemble. Oh là là, on espère que ça ne va pas s'arrêter, ça. Que notre vie entière va être un carême. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint. Voilà. Je trouve que cette citation de saint Paul, que vous trouvez en Romains, chapitre 15, verset 13, c'est le résumé de ce que nous avons essayé de partager aujourd'hui, parce que tout y est, hein, Romains 15, 13. Que le Dieu, elles sont très belles, hein, ces salutations de Paul, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen.
Merci. Merci.